L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Notez que tout à l'heure, la rédaction de 01net.com me rejoindra dans ce studio, comme chaque samedi, bien sûr. Et puis après, ce sera le décryptage de Lila Megrawa et le crash test d'Antoine Cyr. Mais nous n'en sommes pas encore là. On va retrouver notre passion selon Sanet tout de suite avec vous, Lila, et notre invité. On va évoquer, en fait, l'apport de la technologie face aux déserts médicaux.
Mais oui, tout à fait François, parce que vous peut-être ne le savez-vous pas, aujourd'hui c'est près de 2,5 millions de Français qui seraient touchés par ces fameux déserts médicaux. Donc à savoir qu'à proximité, vous n'avez pas forcément de médecin. Pour en parler, on a un spécialiste en la matière en studio, Franck Bodineau. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Ravi. Et également, Franck Bodineau, vous êtes PDG de la start-up H4D. Vous avez un parcours assez atypique. On va le saluer. Avant d'être entrepreneur, vous avez été urgentiste, médecin de campagne. Et c'est justement ces deux dernières fonctions qui vous ont sûrement inspiré H4D en 2008. Votre vocation, donc, si on a bien compris, c'est de résoudre ce problème des déserts médicaux, c'est ça ?
Bien, oui, moi je suis médecin de formation, j'ai eu l'occasion de travailler en France à l'étranger, et en effet dans le cadre de ce que l'on appelle communément les déserts médicaux, en fait sont des zones sous-médicalisées, peu médicalisées ou pas du tout médicalisées, c'est-à-dire où on trouve encore quelques médecins ou pas du tout.
Mais pas d'installation en fait, c'est ça, il n'y a pas d'installation technique pour accueillir des malades en cas d'urgence, c'est ça ?
Alors là déjà vous évoquez différentes situations, d'accord, l'urgence ou la non-urgence, ce qui est important de comprendre dans l'apport des nouvelles technologies pour répondre à cette problématique de désertification médicale ou de sous-médicalisation, ça va être l'indication qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'avec la télémédecine on ne pourra pas tout résoudre, mais les indications sont importantes, c'est-à-dire quand est-ce que l'on va utiliser ce type de technologie pour répondre à ce problème.
Est-ce qu'aujourd'hui ces zones de déserts médicaux sont nombreuses en France ? Est-ce que ça touche principalement les zones rurales ou pas seulement ?
Alors cela touche essentiellement évidemment les zones rurales, comme vous l'avez signalé. Il y a plus de 2,5 millions de Français qui sont touchés par cette problématique. Mais on retrouve aussi cette problématique d'accès aux soins dans certaines villes, y compris dans certaines grandes villes, où de ce fait, lorsqu'il y a encore certains services d'urgence, ils se trouvent complètement saturés. Mais évidemment, cela va toucher des zones rurales, montagneuses, voire périurbaines.
Et qu'est-ce qui pourrait expliquer cette défection ?
Bien, écoutez, il y a eu différents rapports qui ont expliqué cet état des lieux, qui n'est pas un problème uniquement français, mais c'est un problème que l'on retrouve dans beaucoup d'autres pays, et pas que des pays émergents, des pays très développés comme la France, évidemment. Il y a évidemment le vieillissement de la population, mais aussi le vieillissement de la population médicale. Pour former un médecin, il faut à minima 9 ans et demi. C'est un processus qui est long. Il y a aussi le fait que les médecins ont, et c'est tout à fait compréhensible, envie d'avoir une certaine qualité de vie. Et parfois, la
et
vie en milieu rural.
Donc, se retrouver dans un village perdu, c'est ça ?
Alors,
c'est ça,
médicalement, ça peut avoir un intérêt et un sens.
Bien sûr.
Et pour l'avoir vécu en France à plusieurs reprises, la pratique était passionnante. Mais lorsque l'on se retrouve seul, confronté à plusieurs villages et à des situations extrêmement urgentes, bien, cela peut ne pas convenir à tous les médecins. Donc je pense que les médecins aujourd'hui ont aussi envie d'avoir une vie personnelle et sociale épanouie.
Ouais, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations où des médecins partent à la retraite et ne sont pas remplacés.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Alors dites-nous, avec votre société H4D, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pallier ces déserts médicaux ?
Eh bien, écoutez, ce que l'on a mis en place, c'est le premier cabinet médical connecté qui s'appelle une consulte station et qui est un outil à disposition des médecins et des patients, qui comprend en fait toute une technologie spécifique et qui permet de répondre de manière extrêmement précise, fiable et professionnelle, je reviendrai sur ce terme-là tout à l'heure, à certaines indications dans les déserts médicaux. Il faut savoir qu'on installe donc la consultation toujours en coopération et intégrée dans les écosystèmes médicaux déjà présents. On travaille avec les médecins locaux, ce qu'il reste pour éviter qu'ils repartent, mais aussi du département.
Ça peut pas être dans une poste ou dans une mairie quoi.
Si, cela peut être dans une poste et dans une mairie.
Je crois que c'était dans un environnement médical.
Non, pas forcément. Justement, la force de ce dispositif, de cette consultation, qui est un cabinet médical dans lequel il y a plusieurs capteurs, vous êtes en visioconférence avec le médecin, d'accord ? Donc vous le voyez, vous lui parlez, il vous voit, il vous parle.
C'est la taille d'un photomaton en fait, c'est ça ?
Voilà, exactement, la taille d'un photomaton, à part que c'est beaucoup plus sophistiqué, il y a un stéthoscope à l'intérieur, le médecin à distance écoute votre cœur, vos poumons, regarde votre tympan, votre gorge, pour votre tension. En fait, on a une trentaine de tests qui permettent de couvrir 85% de tout ce qui peut être fait dans un cabinet médical. Le médecin, au lieu d'être à l'intérieur de son cabinet, se retrouve à 50, 100, 200 kilomètres.
Et comment ça se passe ? Je rentre donc dans cette cabine. Automatiquement, je suis mis en contact avec un médecin.
Alors, il y a un système de régulation en amont. C'est ce que je vous disais, c'est un système professionnel. Nous, on n'est pas un objet connecté quelconque. D'accord. On a un système professionnel qui répond à une réglementation stricte et à un aspect juridique strict. Nous, ce que l'on a mis en place au-delà de la technologie et ce qui intéresse nos partenaires, c'est tout notre savoir-faire organisationnel. Et qu'est-ce que c'est ce savoir-faire organisationnel ? Eh bien, c'est mettre en place les bonnes indications pour cette pratique. C'est-à-dire que, par exemple, le soir, les week-ends, lorsque il n'y a pas de médecin de garde dans la zone, nous avons formé des médecins généralement du département, généralement des médecins médicales de garde qui restent dans le département. Donc nous travaillons avec l'écosystème local et il y a un système de régulation, c'est-à-dire que vous n'allez pas directement dans la cabine, vous appelez d'abord dans les déserts médicaux le centre 15. Nous avons travaillé main dans la main et nous travaillons main dans la main avec les centres 15 et les médecins régulateurs. Il y a des protocoles d'inclusion et d'exclusion et à ce moment-là, s'il n'y a pas d'urgence vitale, vous êtes orienté en bas de chez vous dans la consultation. Vous êtes accueilli par une personne qui n'est ni un professionnel de santé, ni un professionnel paramédical. Vous rentrez dans la consultation, vous mettez votre carte vitale, vous êtes en connexion avec le médecin qui se retrouve sur le plateau de médecins, donc la maison médicale qui peut être à 50, 100 km, c'est ce que je vous disais. Et à ce moment-là, le médecin a tous les outils pour vous faire un diagnostic extrêmement précis.
Ces analyses, c'est pas des analyses poussées, mais en tout cas en temps réel.
Il a les analyses qui sont très poussées, souvent, en temps réel, en effet, et le patient est soigné. Le patient a un diagnostic et il est pris en charge comme si c'était un cabinet. À part que l'on fait voyager l'information plutôt que le patient ou le médecin. Le patient, ça lui permet d'éviter parfois 1h30, 2h de route, le temps d'attente aux urgences, etc. Le retour chez lui, où il revient souvent beaucoup plus fatigué que quand il est parti, quand c'est 11h du soir ou minuit. Le médecin, on travaille toujours avec les médecins locaux et ils ont le compte-rendu, évidemment, de la consultation. Ils savent que ça s'est fait dans un contexte professionnel et régulier.
Et suite à cette téléconsultation, est-ce que le patient peut avoir une ordonnance ordinaire ?
Il peut avoir dans certaines conditions une ordonnance ordinaire, tout à fait.
Qui va arriver comment ? Qui va être imprimé ? Comment ça se passe ?
Là, ce sont des systèmes en fait assez balisés et très normés. Et en effet, il peut recevoir directement dans la consultation une ordonnance.
D'accord, qui sera qui a le vrai pouvoir d'une ordonnance en fait.
Ah mais bien sûr, mais tout ceci ne peut s'entendre que s'il y a une coopération médicale.
Bien sûr.
J'y reviens, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. C'est une vraie coopération médicale et du coup, c'est une vraie réponse professionnelle.
Et quel type d'examen on peut avoir dans cette
énormément une otite, une bronchite, une pneumopathie, un trouble cardiologique, un problème dermatologique, on arrive jusqu'à faire, je vous disais, 85% de tout ce qui peut être fait, évidemment en médecine générale, mais aussi nous avons beaucoup de demandes en ophtalmologie, puisqu'on arrive à faire des fonds d'œil à distance, des tests visuels, on intervient aussi beaucoup en pneumologie, en cardiologie, etc.
Et alors, qui paye pour ce type d'installation ? Est-ce que ça va être la ville ? Est-ce que ça va être les centres médicaux ? Qui paye dans ce cas ?
Tout dépend de l'analyse. Les payeurs peuvent être les personnes que vous venez de citer. Il faut savoir que nous, ce que l'on propose aujourd'hui, c'est un système d'abonnement. Parce qu'il faut que le système fonctionne de manière coordonnée. Il ne s'agit pas de poser un matériel, quel qu'il soit. Il s'agit que le matériel soit utilisé.
D'accord,
et qu'il soit en lien avec l'écosystème. Donc c'est toute une organisation. Et donc le payeur peut être la collectivité locale ou territoriale. Cela peut être d'autres acteurs, un système hospitalier, public ou privé.
Alors ça marche, j'imagine qu'il y a une connexion Internet.
Oui, tout à fait.
Le paradoxe, c'est que quand on est dans une zone rurale, on n'a pas forcément du très haut débit. Parfois, on n'a que de la DSL qui est vraiment pas terrible. Comment vous arrivez justement à pallier tout ça?
Alors, c'est une excellente question. Aujourd'hui, on s'intègre dans le cadre de l'aménagement du territoire, d'accord, au niveau local. Oui. Et on n'a jamais eu, en fait, ce type de problématique. Enfin, on y a déjà répondu. Pour être plus clair, notre premier programme s'est fait en Afrique. On a eu donc, on a été confronté à l'extrême isolement et on s'est travaillé avec des bas débits sécurisés. On s'est travaillé avec des débits plus classiques. On s'est travaillé par satellite. En France, ça ne pose aucun problème.
D'accord.
Aujourd'hui, il existe des cabines, des consult stations installées en France, éventuellement à l'international, puisque vous évoquiez l'Afrique.
Oui, on a plusieurs dizaines de dispositifs qui répondent déjà à cette problématique de désertification médicale, qui se retrouvent aussi dans d'autres situations, comme des résidences pour personnes âgées, etc., qu'on peut retrouver aussi en ville pour des systèmes de prévention et de suivi, par exemple pour les étudiants ou pour les personnes âgées, et nous intervenons aussi à l'étranger, en effet.
Est-ce que ça coûte plus cher, cette consultation, pour le patient?
Alors, écoutez, aujourd'hui, les consultations coûtent exactement le même prix que des consultations classiques en cabinet, puisque nous respectons stricto sensu les recommandations, qu'elles soient éthiques, réglementaires ou juridiques.
D'accord. Très bien. Eh bien, passionnant tout ça.
Merci beaucoup.
La consultation. Dernière chose, oui.
Oui, peut-être pour répondre à une de vos interrogations aussi. Nous intéressons aussi d'autres environnements, comme celui des entreprises aujourd'hui, très fortement, mais aussi des systèmes beaucoup plus intégrés avec un vrai maillage local pour l'aménagement du territoire. Voilà.
Très bien. Franck Bodino, merci beaucoup.
Merci à vous.
On revient dans un instant pour la suite de cet atelier World Tour et puis la rédaction de Zeronet.com qui arrive aussi. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques minutes, on découvrira la French Tech Alsace.
Oui.
Avec Aurore Géraud et avec notre invité. Ce sera dans quelques instants. Mais auparavant, notre World Tour. Aurore est en compagnie de Cédric Malou. On va aller dans une ville que j'aime beaucoup, très romantique. Il s'agit de Prague.
Donc bonjour Cédric Malou, qui est donc DG de Startup Yard, accélérateur pragois.
Bonjour.
Bonjour.
Ville
très romantique et ville très technologique.
En plus.
En plus.
Voilà. Ouais, alors quand les deux se marient, alors là,
on ne peut que y aller. Ça nous fait rêver.
Voilà. Exactement.
Donc dynamique au niveau de l'écosystème startup. Quelles sont les spécificités de cet écosystème?
Alors, plusieurs. Déjà, on a un système ici d'éducation qui est très très bon pour l'éducation scientifique. Moi, je suis un ancien développeur. Il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour être un développeur, mais les bons mathématiciens deviennent des très bons développeurs. Donc ça, c'est déjà un bon terreau. Ensuite, la vie n'est pas chère du tout ici par rapport à l'Europe de l'Ouest, d'autres pays. Donc, vous pouvez monter des startups très facilement sans avoir des coûts très très élevés, même des coûts de bureau, tout simplement des coûts opérationnels. Puis, on a aussi un chômage qui est très bas, qui est en dessous de 6%. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui vient, il y a beaucoup d'expats. Moi, je connais énormément d'expats qui viennent ici travailler dans le domaine technologique. Donc, on a un bon terreau, on a des bonnes personnes et beaucoup d'idées.
Est-ce qu'il y a des domaines de start-up qui se démarquent particulièrement?
Effectivement, on a pas mal dans le domaine de la sécurité. Il y a quelques belles histoires tchèques. Vous en connaissez les deux sociétés d'antivirus, Avast et AVG, chacune valent plus d'un milliard de dollars. Il y a également une société comme Cognitive Security qui a été rachetée récemment par Cisco. Nous-mêmes, on a accéléré dans notre accélérateur l'année dernière une société qui s'appelle Tesca Labs, qui est spécialisée dans la sécurisation des applications mobiles pour entreprises et pour les objets connectés. Donc on retrouve, il y a une couleur assez sécurité. En général, on trouve pas mal de boîtes justement avec du travail sur les données, du travail scientifique sur les données, par exemple des gens comme Good Data, si vous connaissez, qui sont des Tchèques en fait, ou aussi des gens comme Social Bakers qui font de l'analytique sur euh, sur Facebook, sur Twitter, qui sont utilisés par la moitié des fortunes 500 à travers le monde. Donc là encore, ce sont des scientifiques, c'est de l'informatique scientifique, mais appliquée sur des produits commerciaux. On a même également, et on est le seul pays en Europe, le moteur de recherche numéro un ici, c'est pas Google, c'est un moteur local qui s'appelle Fesnam, qui a environ une quinzaine d'années environ. Donc là encore, quand on voit en France qu'on pousse un peu Quant pour essayer de faire bouger Google de la place numéro un, ici, bah nous, on a un joueur local qui est meilleur que Google. D'ailleurs, même nous, à l'accélérateur, on a accéléré l'équivalent, mais pour l'Albanie. Alors, on parlera de l'Albanie un autre jour, peut-être. voilà. Il y a à peu près, pour vous donner une idée, bon, c'est un pays d'environ 10 millions d'habitants, un peu plus, hein. Et il y a plus de 400 startups qui sont listées sur AngelList, qui est une référence. Mm-hmm. Moi, ne serait-ce que ces 12 derniers mois, j'ai dû étudier environ des dossiers de 50 startups différentes.
D'accord. Et du coup, est-ce que vous voyez des contraintes pour les startups là-bas? Je crois qu'on en avait discuté un petit peu tous les deux par téléphone avant. Il y a des problèmes au niveau de leur promotion?
Voilà. Alors, les tchèques, heureusement, c'est en train de changer. Et le travail que je fais, moi, à l'accélérateur, fait partie de ça également. C'est que ce sont des très bons scientifiques, mais ce ne sont pas des très bons commerciaux. Donc c'est pas les meilleurs à se faire connaître. Je sais pas si les sociétés que je vous ai citées, vous saviez que c'était des sociétés tchèques, par exemple, tchèques. Donc ils sont pas super bons en termes de promotion. Donc on fait nous beaucoup de travail. Moi j'aime bien dire que j'essaie de transformer des informaticiens en commerciaux. Et ça c'est du boulot, mais c'est plus facile que faire l'inverse. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même pas mal de success stories. Un autre petit frein, c'est que peu d'investisseurs viennent voir ce qui se passe ici. Alors ceux qui sont intelligents, ils viennent et puis ils font des bons deals parce que effectivement, donc il y a des bonnes startups, il y a de l'argent mais pas tant que ça, donc il y a beaucoup moins de concurrence pour eux quand il s'agit de faire de l'investissement. Après, on souffre comme tout le monde un peu d'une pénurie de développeurs malgré le tableau. Mirobolant, je vous ai fait. Tout le monde cherche des développeurs, donc comme partout, c'est une denrée qui est rare. D'ailleurs, l'université principale de la République tchèque produit environ 30 000 développeurs par an, hein, pour vous donner une idée, qui arrivent sur le marché du travail.
Et quels sont l'apport en fait des centres de développement? Je crois qu'ils sont très importants là-bas.
Ouais, effectivement. Donc, comme on a cette force de travail qui est excessivement bien qualifiée, qui parle anglais parfaitement, surtout pour les générations plus jeunes, on a beaucoup de grosses sociétés qui viennent s'installer dans la région et qui montent des centres de développement. Donc, par exemple, il y a Skype qui est ici, il y a DHL, il y a les laboratoires Merck qui ont un centre de R&D, par exemple. Donc, ils voient bien l'intérêt. On est ici de tous les anciens pays du groupe de l'Est. La République tchèque est celui qui est le plus à l'ouest, si vous voulez, qui est le plus proche de vous. On est plus près de Paris que de Vienne, hein. Donc c'est pas loin, c'est 1h30 de Paris. Donc il y a beaucoup de boîtes qui viennent ici et qui montent des centres de développement. J'entendais parler récemment d'une boîte française qui est en train de monter un centre de développement pour 200 personnes. Je dirais pas non, mais donc ça vous donne une idée un peu de que les gens se rendent compte, l'industrie se rend compte qu'en République tchèque, il y a des choses qui bougent. Simplement, les Tchèques sont pas super bons à le faire savoir.
Super, merci beaucoup, Cédric Palou.
Merci.
Je vous en prie.
Merci, directeur général donc de Startup Yard. Et après notre World Tour, place à notre French Tech Tour dans cet atelier numérique sur BFM Business. Aurore Géraud, on va s'intéresser à la French Tech d'Alsace cette semaine. Avec le micro allumé, on y va.
À l'Alsace, oui. Donc nous sommes avec Luc Solaire, qui est directeur recherche et développement à l'IRCAD, qui est l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif. Luc, bonjour.
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 Alors, on va parler Alsace et puis on va parler surtout MedTech aujourd'hui. Luc, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelle place prend la MedTech en Alsace?
Alors, en fait, la MedTech en Alsace, c'est un domaine de prédilection. Il y a énormément de sociétés qui se sont développées dans cette thématique et qui reposent sur un réseau, un terreau très favorable avec des grands groupes présents ainsi que des plus petites structures et des moyennes entreprises. Donc, on est dans un contexte extrêmement favorable de développement, également autour d'un institut qui s'appelle l'IRCAD, qui est le premier centre de formation en chirurgie mini-invasive dans le monde et qui favorise évidemment ce développement.
Et quel type de domaines sont particulièrement visibles en Alsace, dans la santé ?
Alors, le domaine de prédilection, c'est d'abord et avant tout la chirurgie, guidée par l'image notamment et par la robotique. Cette chirurgie est représentée donc par l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, l'IRCAD du professeur Maresco, qui forme plus de 5000 chirurgiens par an à Strasbourg, par l'Institut hospitalo-universitaire de Strasbourg, un des 6 instituts qui a été créé en France pour développer donc ces nouvelles techniques et cette nouvelle recherche à visée industrielle en France. Donc cet institut est dédié à la chirurgie guidée par l'image, et puis par le médicament qui est aussi présent autour de nous, avec beaucoup de laboratoires qui travaillent dans ce domaine. Mais c'est vrai que le domaine principal de prédilection, c'est surtout et avant tout la chirurgie, et ensuite donc pas mal d'autres thématiques se sont greffées sur cette partie-là, notamment avec la gestion des patients dans l'hôpital, de façon plus générale, parce qu'évidemment, si vous amenez le patient au bloc, il faut d'abord les amener à l'hôpital.
Je me souviens d'ailleurs, je crois, d'une opération qui avait été réalisée à distance depuis Strasbourg vers New York. Ça, c'était il y a peut-être pas loin d'une dizaine d'années, non ?
Alors, c'était même un peu plus loin, c'était en 2001.
Voilà, c'est ça.
C'était l'opération Lindbergh, le professeur Maresco était à New York, la patiente était à Strasbourg.
Et
on avait opéré donc à très longue distance, en effet. C'était d'ailleurs le démarrage, je dirais, de cette ère du numérique. Ça a été le point de référence de beaucoup de personnes, puisque ça a permis de prendre conscience de cette force que l'on avait en Alsace dans ce développement spécifique.
Et du coup, comme on parle d'opération à distance, est-ce qu'on peut parler aussi de télémédecine ?
Alors, tout à fait. En fait, on a des développements assez poussés dans la partie télémédecine. Je pense notamment à la société Visible Patient qui fournit des modèles 3D de patients en ligne. Donc, le clinicien envoie l'image et en retour, il a la modélisation 3D de patients. Et puis, on a la partie robotique aussi qui est fortement développée. Je pense par exemple à la société Axilum Robotique qui a développé un robot de stimulation magnétique transcrânienne. Donc, c'est des systèmes un peu compliqués, mais qui permettent de faire des nouvelles thérapies au niveau du cerveau. Donc, on a les deux éléments, la partie à la fois informatique et réseau, et la partie robotique qui se développe de façon assez nette.
Oui, j'allais dire plutôt du hardware ou du software.
En fait, on a les deux. Hein. Les deux sont importants. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup de software. On a pas mal de développement sur cette partie-là. Si on prend l'exemple du software, prenons simplement les résultats du concours national qui avait eu lieu cette année, donc fin 2015, en émergence et organisé par la BPI. On avait 3 sociétés en Alsace qui avaient été qui ont été primés, la société MRI, la société Lumen Surgical et la société OpenL Simulation. Les 3 travaillent dans l'analyse de l'image, deux d'entre elles plutôt travaillent dans l'analyse de l'image, MRI et OpenL Simulation, qui fait des simulateurs de chirurgie. Et la 3e, Lumen Surgical, elle fait plutôt de l'instrumentation chirurgicale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs sociétés comme ça en instrumentation qui utilisent le réseau d'entreprises plutôt industrielles d'Alsace, hein, où on peut faire ici des outils, des robots. Le robot Axilum, par exemple, est entièrement produit en Alsace. L'Human Surgical va développer son système par des sociétés en Alsace. Je pense à une autre société, par exemple, Surgical Perspective, qui fait aussi un outil de rétractation d'organes en single port, sur un seul point d'accès, et est entièrement développé également là, en Alsace. Donc, vous voyez, il y a du hardware, et puis il y a du software, et les deux sont présentes.
J'allais dire, les partenariats industriels, est-ce qu'ils sont moteurs dans l'innovation en Alsace ?
Alors oui, de façon très forte, l'IRCAD repose sur un partenariat avec la société Medtronic d'un côté, qui est le numéro 1 mondial, vous savez, dans le medical device, et la société Karlstorff, qui elle est numéro 1 mondial dans l'optique en chirurgie mini-invasive. Et puis l'Institut Hospital Universitaire a rajouté à ses partenariats la société Siemens Healthcare, qui est évidemment très connue pour la partie imagerie médicale. Et donc ces 3 sociétés travaillent avec nous de façon assez importante aujourd'hui, et avec les différentes sociétés dont j'ai pu parler précédemment. Je pense par exemple à Insimo, une société de simulation chirurgicale qui se développe notamment avec des partenariats industriels également. Donc sur ces sociétés-là. Donc en fait, on a aujourd'hui beaucoup de partenariats entre les grands groupes et les plus petites structures.
Merci beaucoup Luc Solaire pour toutes ces précisions.
Merci.
Je vous en prie.
Voilà, et on voit que la région Alsace est vraiment très à la pointe sur les medtech. Aurore, on revient dans un instant avec la suite de cet atelier numérique. On va entamer notre dernière demi-heure avec la rédaction de Zeronet.com. Et puis ensuite, Lila Megraoua et Antoine Cyr pour le crash test. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Un excellent week-end avec nous, l'atelier numérique. Et sur BFM Business maintenant, il nous rejoint comme chaque samedi. C'est Éric Le Bourlou. Bonjour Éric.
Bonjour.
Rédacteur en chef du site 01net.com, premier site d'actu high-tech en France. Et on va jeter un œil sur justement les gros titres d'actu qui ont bien marché cette semaine sur 01net. Et on va commencer par Apple, évidemment, l'indétrônable. Et les rumeurs qui courent concernant les nouveaux smartphones d'Apple.
Eh oui, on les attend en fait, voilà. On les attend, on a hâte de voir ce que ça va donner, puisque là, on sait qu'il va avoir un nouvel iPhone cette année, mais la nouveauté, c'est qu'il va en avoir deux, en fait. Il va avoir un nouvel iPhone qui va s'appeler iPhone 5 SE. Alors, l'iPhone 5, ça peut paraître vieux, mais voilà, il y a des gens qui sont fans de cet iPhone-là. Pourquoi ? Parce qu'il a un écran plus petit, de 4 pouces.
Et qu'on peut manipuler avec une seule main,
voilà,
en fait.
Exactement, et surtout, il sera moins cher. Ce sera un iPhone, on va dire, un peu moins cher, parce qu'on sait qu'Apple ne lésine pas sur les prix, oui, sur ses appareils.
Enfin, quand on dit moins cher chez Apple,
oui,
attention,
un peu moins cher,
hein, quand même. Hein, on n'a rien en dessous des 500 euros chez Apple, hein, en termes de smartphone.
Exactement. Mais voilà, donc voilà, c'est Mark Gurman, hein, qui a on peut être quasiment être sûr que ce sera son nom, puisque c'est la personne qui donne cette information et la personne qui avait tout donné sur l'iPhone 6S avant même qu'il sorte l'année dernière.
Donc il est bien informé.
Très bien informé. Gars. À mon avis, il a quelqu'un chez Apple qui lui donne plein d'infos et à mon avis, il doit bien surveiller ce garçon. Et donc
ça passe. C'est visiblement.
Oui, c'est vrai.
C'est ça.
Et donc, effectivement, cet iPhone 5 SE sortirait, alors on ne sait pas trop quand, mais en tout cas, il serait annoncé au mois de mars, donc il pourrait sortir assez vite derrière. Et il aurait des spécifications, si vous voulez, qui ne seraient pas des spécifications d'un mobile haut de gamme. Il n'aurait pas un nouveau processeur, il aurait le processeur actuel, il n'aurait pas la nouvelle technologie 3D Touch qu'on trouve dans l'iPhone 6 S. Il serait un peu plus basique, si vous voulez, mais effectivement, il serait moins cher. Donc ça, c'est aussi un créneau sur lequel Apple doit un peu se placer, même si, effectivement, comme vous le disiez, Apple ne va pas faire du téléphone à 150 ou 200 euros. Ça restera de toute façon un téléphone assez cher.
Mais on parle de nouveaux iPads aussi qui pourraient être annoncés.
Exactement,
lors
un iPad Air 3 notamment, qui n'a pas été rafraîchi depuis longtemps. La nouvelle tablette d'Apple, même si aujourd'hui ce n'est pas un produit qui se vend le plus, mais c'est vrai qu'Apple a besoin de rafraîchir aussi sa gamme d'iPad.
Voilà, ça sera en mars tout ça. Et puis, autre rendez-vous, alors cette fois-ci qui est véritablement gravé dans le marbre, hein, ça sera en septembre prochain. Voilà, on le sait, chaque année, Apple présente ses nouveaux iPhones, avec là, donc, quand même, malgré tout, un événement qui sera très attendu, puisqu'on passera à la génération 7.
Exactement.
De l'iPhone.
Donc, avec un nouveau design, hein, forcément, puisque sur les... nouvelle version de l'iPhone, dit nouveau design, et puis, évidemment, sans doute, un nouveau processeur, il sera sans doute plus puissant, mais ce qui semble se montrer tout de suite, c'est qu'il aura, de toute façon, une petite spécificité en photo. Il aurait deux capteurs photo. Alors c'est pas le premier téléphone à avoir deux capteurs photo, mais on soupçonne qu'Apple va sortir un petit joker de sa manche pour le rendre de nouveau l'iPhone le smartphone le plus performant en photo. On sait que ça a fait beaucoup de son succès, mais aujourd'hui il est dépassé finalement par d'autres téléphones Android.
Oui.
Et là Apple a envie de reprendre le lead et il mettrait en fait deux capteurs dans ce smartphone. Alors ça peut servir à beaucoup de choses, mais ça peut notamment servir à faire des effets de flou, par exemple pour des portraits, pour ce genre de choses. Ça peut servir à pas mal de choses, à 3D, enfin on ne sait pas trop, mais en tout cas il y aura effectivement un capteur de nouvelle génération dans ce prochain iPhone.
Voilà. Alors tout ça, évidemment, ce ne sont que des supputations.
Oui,
hein,
alors même qu'on si, effectivement, pour le 5 SE, on peut être quasiment sûr que c'est ça. Ouais.
Voilà. Mais c'est vrai que l'iPhone 7 sort dans 8 mois, donc on a encore un peu de temps.
Exactement, pour en parler.
Devant nous. Et puis on aura d'autres occasions, évidemment, pour évoquer toutes ces rumeurs. Un mot aussi sur les résultats financiers d'Apple, qui ont été communiqués, comme pour la plupart des grandes boîtes actuellement, hein,
exactement,
qui sont excellents, mais ne vont peut-être pas durer.
Exactement, tout simplement, Apple a fait le meilleur trimestre que jamais une entreprise n'avait fait. Faut se rendre compte quand même de l'impact. C'est jamais une entreprise n'avait gagné autant d'argent d'un trimestre, hein, donc c'est quand même de bons résultats, on peut le dire. Mais en revanche, évidemment, la bourse, ça marche avec la spéculation et les ventes d'iPhone, et c'est même Tim Cook, hein, le patron d'Apple, qui le dit, il faut s'attendre à ce que les ventes d'iPhone baisse pour la première fois depuis le lancement de l'iPhone en 2007. Les ventes d'iPhone vont sans doute baisser cette année. Alors, ça plaît pas à tout le monde à la bourse, mais bon, voilà, Apple est quand même une entreprise qui marche très bien, même si effectivement, bah voilà, la croissance étant ce qu'elle est, et puis le marché arrive un petit peu maintenant à maturité hein, sur les smartphones, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire.
Et puis ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué prévu en Asie notamment.
Exactement. Et puis surtout que maintenant il y a quand même de très grandes marques qui font de très beaux téléphones chez la concurrence, qui font du premium à bien moindre prix qu'Apple, et ça pose aussi un petit peu un problème. Et
en effet. Dernière petite information concernant Apple avec un rappel de chargeur.
Tout à fait, ouais.
Et peut-être que vous êtes concerné, vous qui nous écoutez, si vous avez un Mac.
Exactement. Si vous avez un Mac et même certains modèles d'iPhone, vous êtes peut-être concerné. Alors, c'est un communiqué qui est tombé comme ça. On s'y attendait pas du tout. Mais c'est un rappel très massif puisque ça concerne quasiment l'ensemble des chargeurs sortis entre 2003 et 2015. Et Apple vous propose de les remplacer et vous déconseille d'ailleurs de les utiliser, hein, c'est bien précisé. Parce qu'il y aurait un risque d'électrocution. Alors il y a une petite partie du chargeur qui peut se dénuder, on va dire, qui peut s'abîmer. Et si cette partie s'abîme, vous vous exposez à des chocs électriques si elle est branchée. Donc c'est un petit peu dangereux. Il y a eu que 12 cas hein, qui ont été recensés, mais 12 cas sur des millions effectivement de chargeurs qui sont dans la nature. Cependant, vous pouvez donc aller sur 01net par exemple, regarder si votre chargeur est concerné, et puis éventuellement vous le faire remplacer par Apple, soit en allant en Apple Store, soit en passant par leur site.
D'accord. On enchaîne maintenant avec Google. Google qui est arrivé à remplir un défi, je veux dire à battre un être humain sur un jeu bien particulier avec l'intelligence artificielle.
Exactement. C'est un défi très connu pour les chercheurs en intelligence artificielle qui était de battre le jeu de Go, de battre un joueur professionnel au jeu de Go. Alors le jeu de Go, c'est un jeu chinois, c'est même un art hein, en Chine hein, ce jeu. Ce jeu de placement de pions a une spécificité qui plaît beaucoup aux chercheurs d'intelligence artificielle, c'est qu'il est très difficile de créer une intelligence artificielle qui soit pertinente, performante au jeu de Go. Et par exemple, Google, enfin, on a déjà des ordinateurs évidemment qui savent jouer au jeu de Go, mais ils n'arrivent pas, ils n'ont jamais réussi à battre un joueur professionnel. Et là, pour la première fois, une intelligence artificielle développée par DeepMind, qui est une filiale de Google, que Google a racheté il n'y a pas si longtemps, a réussi à battre le meilleur joueur européen de Go. Alors, il est un petit peu déçu, lui. Hein. Il n'est pas très content. Mais il fallait bien qu'il y en ait un jour. Et il s'est même fait battre.
Puis se faire battre par une machine, ça doit faire mal.
Un champion, et surtout qu'on est le premier joueur professionnel à se faire battre par une machine. Il s'est fait battre à plate couture, parce que c'était 5 manches à 0. Il n'a pas réussi à comprendre comment avoir la stratégie de la machine.
5 manches à 0 en plus.
Il s'est fait complètement avoir à plate couture. Mais il faut dire que c'est très spécifique ce que Google a développé pour créer cette intelligence artificielle là. En gros, ils ont entraîné leur machine, leur intelligence artificielle, à des millions de parties déjà, de parties de Go qu'ils avaient enregistrées entre deux joueurs. Donc il a beaucoup appris. C'est ce qu'on appelle du deep learning. Il a appris par lui-même des stratégies de jeu. Et puis il a joué après contre lui-même pendant des millions de parties, et ça fait que il a réussi lui-même à développer des stratégies que le joueur en face a du mal à comprendre. Donc c'est vraiment assez impressionnant de voir que pour la première fois on a réussi à battre le jeu de Go.
C'est beaucoup plus complexe en fait comme réflexion que les échecs par exemple.
Parce que c'est beaucoup plus complexe parce qu'il n'est pas possible, contrairement aux échecs, de calculer à l'avance tous les coups qui vont être faits. Il y a plus de positions possibles sur le jeu de Go entre les pions noirs et les pions blancs que d'atomes dans l'univers, pour vous donner un peu une
Il faut quand même un gros processeur pour gérer le système.
Il faut un gros processeur ou alors un programme qui permet d'avoir une vraie stratégie qui va décontenancer l'être humain. Et voilà, ça a été fait par Google. Et je peux vous dire qu'il y en a certains, notamment chez Facebook, qui cherchaient à le faire aussi, qui sont pas très contents parce qu'ils auraient bien aimé avoir cette exclue de battre le jeu de Go.
Objectif maintenant pour DeepMind, c'est de gagner contre le meilleur joueur au monde.
Ça va se passer en mars et Google a fait un gros événement là-dessus, un peu comme IBM, Blue et Kasparov à l'époque. Ils vont le diffuser en temps réel sur Internet. On pourra le regarder. Et là, ils savent pas. On va voir si leur intelligence artificielle est suffisamment forte pour battre le meilleur joueur de Go au monde.
Il va avoir la pression, lui.
Il va avoir la pression. Ouais.
Franchement,
ce sera au mois de mars.
Ça va être un peu compliqué. On enchaîne avec Amazon, avec pas mal de rumeurs concernant le premier site d'e-commerce au monde. On peut le dire.
Exactement.
Hein. Amazon qui s'apprêtera à lancer pas mal de nouveautés et notamment un Spotify.
Exactement. Alors
un système de musique par abonnement.
Exactement, pas un système de musique par abonnement. Alors ils en ont déjà un, mais qui est un peu nul, on va dire, qui est réservé. Vous savez, Amazon a quelque chose de très particulier qui s'appelle Amazon Premium, qui en France vous permet d'avoir des livraisons gratuites, notamment et plus rapides, mais qui aux États-Unis est un vrai bundle de services et qui cartonne en fait, qui marche très bien, puisque avec Amazon
Premium.
Alors
en France, c'est pas la même chose.
Pour l'instant, c'est pas la même chose.
Il y a que le cloud en fait.
Exactement.
Compris dans l'Amazon Premium français.
Mais vous avez aux États-Unis aussi une offre de séries à la Netflix,
voilà, c'est ça.
Et aussi de musique. Mais pour l'instant, ce service n'est pas très intéressant. Mais Amazon, ce qui l'intéresse, c'est qu'il y a un maximum d'abonnés à cet Amazon Premium-là.
Et oui, parce que c'est une manne financière incroyable.
Vous avez tous les mois, vous avez un abonnement.
Et voilà,
c'est absolument génial. Et en plus, ça marche déjà. Donc, ils réfléchiraient évidemment à ajouter de la musique, une vraie offre musicale à cet Amazon Premium. Alors il y en a déjà une, mais c'est mal fait. Le client est pas terrible. Il y a pas autant. Il y a 1 million de titres, alors que sur Spotify vous en avez 20 millions ou plus. Donc voilà, ils sont pas au niveau, mais ils vont le faire. Et il y a de grandes chances que ça arrive assez vite. Et voilà, l'autre question, c'est aussi quand cet Amazon Premium-là va sortir en France, puisque on sait que voilà, il s'apprête. On sait que ça va arriver. On ne sait quand. Sans doute quand ils auront géré les problèmes de droit, notamment pour la vidéo. Mais ça va arriver en France. Il est possible aussi que ce soit une excuse pour lancer ce programme en France, l'arrivée d'un service de musique.
On va suivre ça de près. Et puis aussi Amazon qui après cette pris quand même une jolie claque dans le monde du smartphone avec
le Fire Phone
qui
était un bide absolu,
voilà, que personne n'a acheté, je crois, hein,
non,
visiblement,
non,
enfin,
pas grand monde,
très très peu de monde, voilà, ne va pas jeter l'éponge comme
faut
ça,
dire qu'il était nul, hein.
Oui, c'est vrai, c'était
vraiment
un truc avec des capteurs 3D, personne n'y comprenait quoi que ce soit,
non, c'était alors ils ont voulu faire beaucoup de waouh et puis finalement ça s'est retourné contre eux, c'était absolument inutilisable.
Mais d'un côté, difficile à Amazon de tirer un trait sur le smartphone.
Exactement. Alors Amazon, ils sont déjà présents sur les OS, ils ont des tablettes qui se vendent plutôt pas mal. Ils ont des tablettes, ils ont le Kindle, mais par contre en mobile ils sont nuls et ils ont pourtant un store alternatif au Google Play Store. Et alors Amazon n'a pas dit évidemment son dernier mot et sa nouvelle stratégie serait plutôt que de créer un smartphone qui est pas forcément très sexy et qui marche pas très bien, ce serait d'aller voir ceux qui savent les faire, les smartphones, les fabricants eux-mêmes, et de dealer avec eux pour que les services d'Amazon soient implémentés directement dans les smartphones.
Comme Samsung le fait avec Microsoft, par exemple.
Exactement, de cette manière-là.
On retrouve en fait tous les services de Microsoft intégrés dans le téléphone quand on le démarre.
Tout à fait, exactement. Et ça pourrait aller même jusqu'à, pourquoi pas, remplacer, puisqu'ils ont déjà ce store d'application, cette App Store, si vous voulez, ça pourrait aller jusqu'à remplacer le Google Play Store sur certains marchés. Donc,
il faudra faire de gros chèques.
De très gros chèques, ça c'est sûr. Mais Amazon, en tout cas, pas dit son dernier mot sur le mobile et envie de revenir.
Merci beaucoup Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com. Vous restez là, suite et fin de l'atelier numérique sur BFM Business, le crash test d'Antoine. On va revenir sur Lycos et puis Lina Megrawa dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique touche à sa fin dans un instant, le crash test avec Antoine Cyr, bien sûr, pour conclure cet atelier. Mais auparavant, notre décryptage avec vous, Lila Megrawa, et on va parler de la cartographie cette semaine.
Oui, François. Alors, pour ce tout premier alphabet du numérique de cette année, moi, je prends une bonne résolution, ou plutôt je détourne l'une de mes résolutions. Je vais transformons l'alphabet du numérique en décryptage cette semaine. Les fintech. Alors, petit rappel de définition, l'expression fintech est une contraction de finance et technologie. Par fintech, on va désigner une start-up innovante qui va utiliser la technologie pour repenser les services bancaires et financiers, tout simplement. On peut retrouver un premier marqueur de ce boom fintech dans les chiffres. Alors, le nombre de fintech est assez difficile aujourd'hui à établir, mais je peux vous donner quelques chiffres. Rien qu'en Asie, on dénombre 2500 startups dans le secteur. Le monde anglo-saxon n'est pas en reste. Entre le Royaume-Uni et les États-Unis, ont été comptés, recensés 4000 à peu près startups. Bon, ce compte reste assez manuel, a été établi par Forbes. Forbes a recensé les startups ayant reçu un investissement. Parlons investissement, justement. Selon CB Insights, depuis 2010, 24 milliards auraient été investis dans les startups fintech. Une autre étude d'Accenture pointe qu'entre 2013 et 2014, la masse globale d'investissement aurait triplé. le secteur fintech devenant le secteur à avoir la croissance la plus rapide du marché européen. Dans le détail, c'est le Royaume-Uni qui draine le plus de fonds devant la Scandinavie, les Pays-Bas et l'Allemagne. Quid de la France, me direz-vous? Alors en France, le mouvement est bel et bien en train de se structurer. Le pôle de compétitivité mondiale finance innovation qui a été créé en 2007 aurait attribué, selon Usine Digitale, en 2015 100 labels fintech. On a un autre marqueur également, la création au printemps dernier de l'association France FinTech, dont on avait reçu l'un des fondateurs et aujourd'hui dirigeant, Alain Clos. Alors l'idée de France FinTech, c'est tout simplement à la fois, donc, comme je vous disais, de structurer ce mouvement français FinTech, de fédérer les startups FinTech et d'opérer un vrai travail de lobbying de cette touche FinTech française auprès des pouvoirs publics, des investisseurs, mais également des acteurs historique.
Merci Lila, et place maintenant à notre crash test. Vous savez, comme chaque samedi, on conclut cet atelier numérique avec le crash test d'Antoine. Mon cher Antoine.
Mon cher François.
Cette semaine, eh bien, nous allons revenir à la préhistoire du web. Pour nous intéresser, un moteur de recherche, si vous n'êtes pas trop jeune, que vous avez sans doute utilisé.
Oui, c'était un moteur de recherche, c'était un portail aussi. Et d'ailleurs, ce portail était l'un des sites internet les plus consultés à l'époque, à la grande époque de la naissance du web. Par exemple, je peux vous dire que en 1997, Lycos était le huitième portail le plus consulté au monde, juste devant MSN, et alors que, tenez-vous bien, Google ne faisait pas partie à l'époque des 10 premiers. Hein, il n'existait pas, Google.
Non, Google n'existait pas.
En 1999, on a Lycos qui est le quatrième site au monde le plus consulté du monde, alors que par exemple Amazon est à la septième place, hein, donc c'est quand même assez intéressant. Et puis en 2001, donc on a cette quatrième place de Lycos et l'apparition de Google à la douzième place.
Bah, pétard.
Et voilà. Et donc en 2003, Lycos se fait doubler par Google. Là, on a Google qui est sixième et Lycos qui est septième. Et puis en 2004, Google est quatrième et Lycos disparaît pratiquement dans les profondeurs du classement.
C'est Google qui a tué le Labrador ?
Donc c'est Google qui a tué le Labrador. Parce que, en effet, donc vous faites bien de le dire, Lycos était connu comme étant le portail dont l'enseigne était un Labrador.
Et oui.
Voilà. Alors...
Bah, on se souvient bien de « Va chercher », c'était ça hein, le slogan de l'époque, hein, « Lycos, va chercher ».
Ouais. Et pourtant, figurez-vous que l'enseigne, le nom Lycos, n'a pas pour origine un chien, mais un autre animal qui est une araignée. Car en fait, le nom Lycos est l'abréviation de celui d'une araignée qui chasse en se précipitant sur ses proies, la Lycosidae.
Ah oui.
Ouais. Et donc Lycos, c'était à l'origine un projet expérimental de moteur de recherche qui avait été mené par le professeur Michael Moldin de l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh. Et puis donc après, c'est devenu une marque commerciale. Elle s'est développée à partir de 94. Elle s'est fait une renommée mondiale et puis s'est développée petit à petit en Europe. Et ensuite, il y a eu le rachat. Spray, il y a eu le rachat par un conglomérat sud-coréen qui s'appelle Dome, qui a racheté Lycos l'année donc de la chute de Lycos. Donc là, bah, les Coréens,
ils n'ont pas fait une bonne affaire.
Bah, non, ils n'ont pas fait une bonne affaire. Ils ont regardé Lycos tomber, hein, et donc on a eu d'un seul coup la chute de ce moteur de recherche. Alors qu'il y avait énormément de services. D'ailleurs, il n'y avait pas seulement le moteur de recherche. Il y avait des services de messagerie qui étaient attachés à ça. Il y avait Lycos Mail, Lycos Chat, Caramel, qui a été un service de chat pionnier, oui. Dont se souviennent tous les amateurs du web. Et dont
d'ailleurs, on va
parlera.
En reparler.
On va en reparler.
Parce qu'on vous prépare une saga préhistoire du web.
Et est arrivé sur Lycos. C'est d'ailleurs aussi un peu quand même la chute de Lycos qui a précipité la chute de Caramel. Voilà. Dans les années 2000, on a encore une espèce de volonté de Lycos de se développer, mais petit à petit, ce Lycos s'est cassé la figure. Et figurez-vous que malgré tout, Lycos existe encore, a été racheté par un groupe indien, et là arrive avec des ambitions qui sont complètement nouvelles et complètement différentes et qui sont des ambitions dans l'objet connecté.
Ah oui,
figurez-vous.
Tiens,
et oui,
Lycos est en train de renaître de ses cendres.
C'est-à-dire que le groupe indien qui a racheté Lycos ne veut évidemment pas reprendre la place que Google occupe maintenant parce que c'est un peu râpé. Mais ils ont créé un bracelet et une bague connectés, qui s'appellent The Band et The Ring, et qui sont reliés, comme évidemment une Apple Watch par exemple, au smartphone de leurs utilisateurs. Alors l'idée, c'est que ces objets connectés aient quand même comme première caractéristique la surveillance d'activité du corps humain, comme le sommeil ou comme le rythme cardiaque, et puis ils comportent également un réveil et une option tactile de déverrouillage du smartphone. Et puis, on va trouver aussi, évidemment, alors c'est une technologie d'objets connectés qui ne fonctionne que sur les appareils Android. On sait qu'il y a une grande séparation dans les objets connectés et qui se vend pour l'instant aux États-Unis à respectivement 125 pour la montre et 60 dollars pour la bague. Voilà. Donc c'est un pari assez osé. Que de jouer sur ce nom Lycos, qui était un nom de site, un nom de moteur de recherche pour faire un objet connecté. Maintenant, si vous tapez Lycos,
je me suis amusé à taper sur Lycos.
Ouais. Et donc, quand vous allez sur Lycos, vous voyez un site qui est assez beau, hein.
Ouais.
Il est bien entretenu. Il est.
Il y a toujours le chien.
Il y a toujours le chien
sur la home.
Absolument.
Donc ils ont gardé le Labrador.
Ouais.
C'est pas le même, hein.
Non.
C'est pas le même.
Ah non, on est peu de choses quand on est un chien. Voilà.
Il y a un portail.
Avec de l'actu, etc. Mais il a une bonne tête, donc je sais pas. Honnêtement, la percée dans les objets connectés avec le nom Lycos, je sais pas si c'est quelque chose qui est en train de transformer la planète. Mais peut-être qu'à un moment, il y aura la bonne idée de relance de Lycos qui va apparaître et que les Indiens qui ont acheté ce nom finiront quand même par rentabiliser leur investissement. En tout cas, il est présent dans nos souvenirs.
Voilà, bonne chance à Lycos et aux objets connectés qui est l'un de ces nouveaux paris. Antoine, alors ce qui est intéressant, c'est que le prochain crash test sera dédié aussi à l'un des services qui a marqué les débuts du web, on peut le dire.
Ben oui, bien sûr, et qui est Caramel et qui est très lié à Lycos.
Voilà, évidemment. On vous expliquera pourquoi et on reviendra sur les membres fondateurs de Caramel qui sont devenus très riches, très rapidement aussi. Notamment Oriane Garcia qui est l'une des fondatrices qui représentait un petit peu Caramel. Antoine, on se retrouve la semaine prochaine, bien
absolument.
Évidemment, pour cet atelier numérique. Vous le savez, chaque samedi, 16h, 18h sur BFM Business. D'ici là, bien sûr, portez-vous bien. Très bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on sera là samedi dès 16h.